BW. Vue d'Allemagne.
(1918, 1923, 1938 ou encore 1989), ces années-là, des événements majeurs ont eu lieu le 9 novembre en Allemagne. Nous reviendrons sur cette date historique pour l'Allemagne contemporaine. Le Brexit, vu par des artistes, curateurs et critiques d'art d'Irlande du Nord, ils sont aux premières loges des conséquences du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et ne veulent pas entendre parler de la fermeture de la frontière entre leur territoire britannique et la République d'Irlande. Voilà pour le menu de Vue d'Allemagne. Willkommen, bienvenue. Depuis 1989, la date du 9 novembre est liée à la chute du mur de Berlin. Mais il y en a eu d'autres, des 9 novembre marquants dans l'histoire allemande récente. En Allemagne, on parle même du Schicksalstag, littéralement le jour du destin, pour évoquer cette date. Cette semaine, dans Vue d'Allemagne, je vous propose un tour d'horizon des 9 novembre de l'histoire allemande. Et pour respecter la chronologie, on commence par le 9 novembre 1918, dont on célèbre cette année le centenaire. Pour les Allemands, c'est une date bien plus importante que le 11 novembre, le jour où l'armistice a été signé pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Pour en parler, j'ai interviewé l'historien Guilhem Zumbaum-Tomasi. Il est chargé de l'éducation historique et politique au mémorial Friedrich Ebert de Heidelberg. Friedrich Ebert, qui était justement à la tête du Parti social-démocrate ce 9 novembre 1918, dans un contexte de révolte généralisée. Fin octobre, à Kiel, dans le nord du pays, un soulèvement de marins qui refusent d'être les derniers victimes d'une guerre déjà perdue entraîne une révolution dans tout le pays. La classe politique se trouve prise en étau. L'empereur Guillaume II a déjà pris le chemin de l'exil.
Alors le 9 novembre 1918, le pouvoir politique à Berlin avait le choix soit d'écraser cette révolte-révolution ou soit d'anticiper, c'est-à-dire d'accepter l'effet qu'il y a ce soulèvement et de changer le régime politique. Monsieur Ebert, qui à l'époque guidait en quelque sorte le SPD, avait le choix soit de continuer sous une monarchie parlementaire et démocratique, ou soit, ce qu'il voulait un autre du SPD, M. Scheidemann, de proclamer directement la République. Et l'après-midi, il y avait la proclamation de Karl Liebknecht, alors le futur communiste, pour une République socialiste.
Entre ces trois scénarios, celui de la monarchie parlementaire fera long feu puisque l'empereur abdique et s'enfuit en Hollande. Les révolutionnaires spartakistes conduits par Karl Liebknecht seront écrasés quelques mois plus tard par l'armée. Le 19 janvier 1919 ont lieu les premières élections au suffrage universel. C'est la première fois que les femmes peuvent y participer. La République de Weimar sera proclamée la même année, en août 1919. Et malgré ses faiblesses, en particulier de son système politique, elle aura donc apporté, entre autres changements, le droit de vote des femmes.
Il faut savoir que le droit de vote des femmes proclamé en 1918 existe toujours. D'abord, il y a l'émancipation politique chez les femmes et après les années 70, il y a l'émancipation sociale des femmes. Tout ce qui concerne aujourd'hui le rapport entre le syndicat et les entreprises. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de grèves en Allemagne. Avant qu'on lance des grèves, on discute d'abord avec l'entrepreneur. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui date de la République de Weimar. Si on voit ça pour la presse, tout ce qui est aujourd'hui la liberté de la presse date justement aussi de 1919. Ça, on n'a pas du tout changé en République fédérale.
5 ans après la Révolution allemande et la fin de la monarchie, un autre 9 novembre va faire son entrée dans l'histoire, la tentative de coup d'État menée par un certain Adolf Hitler en Bavière. Nous sommes le 9 novembre 1923 et la date pour tenter de renverser la République par la force n'est pas choisie au hasard.
Tout d'abord, il faut savoir que Hitler n'a jamais choisi quelque chose au hasard. Tout ce qu'il a fait comme politique, c'est aussi une politique de symbole, une politique national-socialiste contre la République. Alors le 9 novembre, il a choisi justement pour manifester son désaccord avec le système démocratique ou avec la République démocratique.
Alors là encore, le contexte était particulier.
La Bavière, elle a connu plusieurs révolutions. En 1918, c'est d'abord la révolution des ouvriers et des soldats. En 1919, elle a connu une révolution blanche, c'est-à-dire il y a des corps francs qui viennent à Munich pour écraser le gouvernement bavarois socialiste. Et en 1923, Hitler s'allie avec les représentants et avec quelques militaires pour déstabiliser la République. Cette alliance entre son parti et les militaires, comme avec certains de la bourgeoisie et de la haute bourgeoisie, ne dure que quelques heures le 9 novembre 1923, mais toujours en visant de déstabiliser et même de détruire la République.
Pour cette tentative ratée, Adolf Hitler écope de 5 ans de prison, mais il ne passera que 9 mois derrière les barreaux. C'est pendant cette courte période qu'il rédige Mein Kampf, où il expose sa théorie et son programme politique. Il entame la réforme de son parti, le NSDAP, qui lui permettra de poursuivre son ascension politique et de prendre le pouvoir légalement moins de 10 ans plus tard, en janvier 1933.
Quand il est sorti du prison, il réforme tout de suite le NSDAP. En quelque sorte, le NSDAP a eu deux fondations, deux dates de fondation, celle de 1918-19 et ensuite après la libération en 1925.
Alors justement, 1925, c'est aussi un autre 9 novembre dont on entend moins parler, c'est la création de la SS qui est marquée à cette date, 9 novembre 1925. Mmh. Là encore, évidemment, on peut se douter que ce n'est pas choisi par hasard.
Non, c'est toujours à voir. Hitler et d'autres aussi, il n'y a pas que Hitler, Goebbels, Göring, Himmler, Heydrich, le 9 novembre, c'est pour eux une bête noire. Il faut toujours créer un autre souvenir pour discréditer ce qui s'est passé le 9 novembre 1918.
Le 9 novembre 1938, cela fait donc plus de 5 ans que le Parti National Socialiste est aux manettes. La propagande nazie bat son plein et prétend vouloir rendre à l'Allemagne sa grandeur. Les Juifs font déjà l'objet de chicanes, mais en novembre 1938, un événement se produit qui sert de prétexte pour passer à une nouvelle étape de la persécution. Les historiens parlent de catastrophe avant la catastrophe, celle qui annonce l'Holocauste. Le 7 novembre, un jeune juif allemand d'origine polonaise commet un attentat à Paris contre un diplomate de l'ambassade d'Allemagne. C'est le point de départ d'un déferlement de violence contre la population juive d'Allemagne et d'Autriche. Le mouvement commence en Hesse, dans le centre de l'Allemagne, avant de se propager dans le reste du territoire, encouragé par les autorités. Jusqu'à la fameuse nuit du 9 novembre, connue sous le nom de Nuit de Cristal, pour le bruit des vitrines qui explosent durant les pogroms perpétrés par la SA, la SS, la police secrète et le service de sécurité nazi.
Entre le 9 et le 11-12 novembre, on pille d'abord les synagogues, ensuite on les détruit. Il y a des membres de la SS et de la SA qui attaquent des juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards. Certains vont mourir. On pense qu'il y aura autour de 1000 personnes qui vont mourir. On sait aussi qu'il y a eu des cas de viol. Et à côté de toute cette brutalité, on commence, sous ordre de Himmler et de Heydrich, d'arrêter des juifs et on les amène à l'époque dans les camps de concentration de Buchenwald, de Dachau, de Bergen-Belsen et de Sachsenhausen. Et là, à nouveau, ces juifs vont être affrontés à des viols, à des tortures.
Selon Guilhem Zumbaum Tomasi, cette date marque un point de non-retour pour les juifs sous la main nazie.
Jamais dans un pays civilisé, avec des droits, une chose pareille est passée. Pour les juifs, c'était clair à partir de novembre 1938 que toutes les mesures qui étaient prises contre eux en 1933 et 1938, en quelque sorte, on pouvait s'arranger. Mais ce qui se passe le novembre 1938 aura plus jamais une possibilité que des juifs vivent en Allemagne. En ce qui concerne les Allemands, toutes les mesures prises sont des mesures qui étaient ordonnées par l'État. Goebbels, qui représente le ministre de la Propagande, Himmler, qui est chef de la police allemande, Hitler, qui était chef de l'État, et Göring, lui, il représente l'armée. Alors tout ce qui, à l'époque, représente en quelque sorte l'État allemand était au courant et en participer activement, que la population allemande y participe. Ça, c'était en quelque sorte une bonne nouvelle, entre guillemets, pour l'État allemand, que les Allemands y participent. Et c'est pour ça, c'est la catastrophe avant la catastrophe, les Juifs ne sont plus protégés et ils ne connaissent plus de la solidarité.
Après novembre 1938, les Juifs vont être systématiquement persécutés avant d'être déportés en masse et exterminés dans des camps de concentration. Un crime contre l'humanité dont l'Allemagne d'après-guerre aura du mal à se remettre. Il faudra d'ailleurs attendre jusque dans les années 70 pour que les pogroms de novembre 1938 fassent l'objet de commémorations officielles. 80 ans plus tard, le travail de mémoire est toujours d'actualité. Une étude vient notamment d'être menée à Düsseldorf pour recenser toutes les victimes de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie. Elles sont plus nombreuses que les chiffres connus jusque-là. Les chercheurs ont pris en compte les victimes directes, mais aussi celles qui ont subi les conséquences des persécutions de novembre 1938. Refermons cette page historique pour parler de l'actualité. À 5 mois de la date envisagée pour la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, la question de la frontière entre l'Irlande du Nord, territoire britannique, et la République d'Irlande, membre de l'UE, constitue toujours un des principaux obstacles à la conclusion de l'accord de divorce. Un modèle a bien été évoqué, celui du backstop, qui éviterait le retour d'une frontière physique entre les deux parties de l'île, en assurant le maintien dans l'union douanière et le marché unique de l'Irlande du Nord. Mais Londres estime que cela porterait atteinte à son intégrité territoriale. Parmi les secteurs qui risquent d'être touchés par un rétablissement de la frontière, il y a aussi celui des artistes et organisateurs d'expositions, pour qui la séparation serait un obstacle majeur à la circulation des œuvres et des idées. Le reportage à Belfast de Mélissa Chemam.
Soir de vernissage à Belfast. La galerie Belfast Expose est consacrée à l'art de la photographie et cette semaine, elle dévoile le travail de 3 artistes, toutes européennes. 2, Alexandra Carles-Torla et Lou Ribera, sont espagnoles. La 3e, Sam Loughlin, anglaise, vient de Cambridge et via Brighton. Un exemple de la diversité culturelle de la capitale de l'Irlande du Nord, région la plus menacée par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour Ryan Coulter, commissaire d'exposition, cette perspective est négative à tous les niveaux.
Je suis originaire d'Irlande du Nord et j'ai vécu à Dublin, aux États-Unis et à Londres pendant 14 ans. Puis je suis revenu ici il y a 10 ans pour prendre la direction d'un petit musée qui est à 20 minutes en voiture de la frontière avec l'Irlande. Notre musée se trouve sur la principale route au nord de la frontière. Nous sommes à moins d'une heure et demie de Dublin et à 40 minutes de Belfast, ce qui implique beaucoup de déplacements de part et d'autre de cette frontière. On se déplace constamment d'un pays à l'autre et on est jumelé avec une ville de l'autre côté de la frontière. Nos expositions sont envoyées en Irlande et nous collaborons régulièrement avec eux. Notre prochaine expo doit se tenir dans les deux musées en même temps. On pense constamment à un travail artistique au-delà de la frontière. Mais c'est parce qu'elle n'existe pas en ce moment. Nous passons en voiture sans aucun obstacle. Seuls les panneaux changent et les distances sont affichées en miles ici et en kilomètres en Irlande. C'est tout. Ça ne nous coûte rien, ça ne demande ni passeport, ni visa, ni contrôle. C'est très simple à l'heure actuelle. Mais tout cela pourrait changer.
Ryan était invité à participer à une discussion sur l'avenir du milieu de l'art après le Brexit. Une discussion publique entre plusieurs artistes et historiens organisée pour l'Association des critiques d'art irlandaise, AICA, par Michaela Cutaya, critique française installée à Galway en Irlande.
Ce qu'on a voulu en organisant un événement public, c'est d'amener un peu déjà qu'est-ce que le discours critique peut amener au débat, peut engager dans le débat. Avec le Brexit et avec les impacts que ça a à la fois sur les académiques, en fait, à l'université, toute la recherche en université, mais aussi sur les artistes, on pensait que c'était de regarder l'aspect culturel, l'impact culturel de Brexit sur à la fois la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. On est la section irlandaise basée à Dublin, mais il y a toujours quand même cette dimension de l'île, du territoire de l'Irlande. Donc c'est pour ça que c'était important de l'avoir à Belfast, de manière à repositionner le territoire de l'île, quoi, à l'opposition des nations.
Il y a aussi bien sûr le fait que en fait, cette frontière n'existe pas du tout en ce moment, donc les gens se déplacent très facilement. Et donc, du point de vue des critiques, des artistes, c'est vrai que c'est un obstacle majeur.
Oui, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça va être? Parce que bon, le gouvernement britannique a promis le fameux backstop. Même en cas où il n'y ait pas d'accord, qu'il n'y aura pas de frontières. Ils ont tous promis leur grand Dieu. Mais personne ne voit comment ça serait possible si la Grande-Bretagne ne reste pas dans l'union douanière. Donc, il y a une incohérence. Les deux affirmations ne peuvent pas aller en même temps. Bah, personne ne sait ce qui va se passer, hein. C'est vraiment...
Pour l'un des invités, Galvin Murphy, auteur d'un texte intitulé « Brexit Putsch très britannique », ce sont les artistes européens, irlandais et écossais qui sont les grands perdants de ce référendum.
Le Brexit peut être défini comme une nouvelle étape des relations entre les deux Irlandes, mais aussi comme le prochain chapitre entre la Grande-Bretagne et ses voisins. Cela nous ramène à un problème remontant aux années 1970 entre la résistance conservatrice des terres du cœur de l'Angleterre envers les tendances perturbatrices des zones périphériques. Devant la demande croissante d'autonomie, les Tories, ou conservateurs, se sont toujours efforcés de défendre la souveraineté absolue du Parlement britannique. À présent, on voit bien les mêmes tendances revenir envers l'Irlande du Nord et l'Écosse qui ont voté non à la sortie de l'Union européenne lors du référendum.
Mais malgré la déception d'une large majorité des Nord-Irlandais, les panélistes ont voulu envisager l'avenir d'une manière rassurante.
La majorité sont vraiment opposés au Brexit, mais c'était aussi d'essayer de trouver qu'est-ce que ça peut apporter, des propositions de réflexion sur qu'est-ce que ça peut stimuler comme nouvelle ligne de pensée et comme nouvelle façon de penser l'Europe et le territoire entre les pays.
Mélissa Chemam, Belfast, pour la Deutsche Welle.
Et selon un sondage révélé en début de semaine par la chaîne Channel 4, 54% des citoyens britanniques se prononceraient aujourd'hui pour un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le sondage a été effectué en ligne auprès de 20 000 personnes dans tout le territoire. Il est présenté comme le plus grand sondage d'opinion indépendant sur le Brexit. C'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !